toutes et tous, il est midi, bienvenue dans Midi à l'Ouest sur Radioactive. On se vendredi, on aime bien le vendredi, on est comme vous. Vendredi 19 avril 2024, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien en cette veille de week-end, voire de vacances pour certaines et certains d'entre vous. Elle a fini ses vacances, elle est de retour sur le plateau de Radioactive, même si elle a participé à une attaque pirate hier après-midi sur cette belle antenne. C'est Noélie qui fait son retour un vendredi, c'est bien.
Ouais. Est-ce que c'est vraiment un retour utile au final si c'est
Mais si. T'as manqué à tout le monde.
J'espère bien, oui.
Ils m'ont tous appelé en disant mais elle est où Noélie? Ben voilà, elle est là, elle est de retour.
C'est faux. Mais oui, en tout cas, je suis très contente d'être de retour.
Comme ta kit n'est pas là, c'est toi qui vas te charger de nous dévoiler les films qui sont sortis. Takit, à qui on fait un grand salut évidemment, qui va nous dévoiler les films qui sont sortis sur les écrans et sur les belles, dans les belles salles obscures, notamment de l'agglomération briochine. Ça sera tout à l'heure après midi et demi, parce que juste avant ça, on aura le plaisir d'accueillir Carole que je salue. Bonjour Carole.
Bonjour
Carole, qui a passé quelques jours avec nous en immersion, on peut le dire comme ça. Exactement. Et qui vous a préparé la bonne nouvelle du jour.
Je vous ai préparé une belle nouvelle bien sympa.
Qu'on va écouter juste après. Un nouvel extrait de cet album que j'espère vous appréciez, c'est celui de Ha The Unclear, très bel album qui nous vient de Nouvelle-Zélande et qui sort aujourd'hui même. C'est ça la bonne nouvelle aussi du jour. Vous pourrez vous le procurer dans les bacs. Et puis avant de parler de cinéma, on vous propose d'aller faire un tour dans le Trégor. Pourquoi ? Parce qu'on a pu interroger Erwan Mingui il y a quelques jours de cela. Erwan Mingui qui est flûtiste de son état et dont l'album nous a plutôt bien plu. Voilà, et donc on va aller faire un petit tour dans les musiques un peu d'aspiration bretonne, mais pas que, où il y a aussi des petites touches de jazz sur cet album Spi, qui va être évoqué donc entre midi 10 et midi et demi. On est gentil, on vous offrira aussi, il nous en reste une, allez, une place pour aller assister au concert de La Yegros ce dimanche du côté de Bonjour Minuit, donc si vous voulez la remporter cette place, et bien restez pas très très loin de votre téléphone, et puis voilà, on est ensemble jusqu'à midi 55, jusqu'au Flash Impro de Vincent Posé et de toute son équipe, comme chaque jour. J'étais complet, il me semble que oui, et pour être complet, c'est quoi le mieux? C'est d'écouter de la musique, un petit peu quand même, c'est ce que vous faites beaucoup sur Radioactive, mais une musique de qualité, une musique qu'on choisit avec soin, une musique qui, je l'espère, vous fait chaud au cœur et qui vous donne ce petit rayon de soleil qui nous manque un petit peu en ce moment, il faut bien le dire. Mais le rayon de soleil, c'est Ha The Unclear, en tout cas ça a été le rayon de soleil de cette semaine, un rayon de soleil néo-zélandais. Il y a même une reprise des Rita Mitsuko sur cet album, et puis c'est pas celui qu'on va écouter parce qu'on l'a écouté hier. Il y a un beau titre qui s'appelle Wallace Line, toi qui es anglophone.
Wallace.
Et gros mythe. Wallace Line.
Faire la blague aussi.
Ben oui, c'est facile. En tout cas, c'est Ha The Unclear et c'est ce qu'on écoute tout de suite avant de retrouver donc la bonne nouvelle du jour.
Cause if I
Wallace Line, Wallace Line, comme vous préférez en tout cas. J'aime beaucoup ce titre-là encore de Addie and Clear. En général, j'aime beaucoup tout l'album. Sinon, on ne vous l'aurait pas mis en coup de cœur, ça va de soi. Vous écoutez Radioactive, il est midi 7 dans ce midi à l'ouest.
Oh, la bonne nouvelle!
La bonne nouvelle du jour, c'est Carole qui vous la présente ce midi.
Contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Carole, j'ai retenu la bonne nouvelle du jour. Une initiative citoyenne venue de l'Hérault. L'initiative de cette idée, c'est un retraité, Yves Gruffaz, habitant de Castelnau-de-Guers, un petit village de 1170 habitants. Son idée initiale était de réduire la pollution de son village et notamment de réduire le nombre de voitures devant les écoles, puisque bon, bah, c'est pas top pour les enfants. Donc à partir de cette idée, il a lancé un projet citoyen participatif au travers d'une association d'aide aux devoirs. L'idée était d'imaginer un bus écologique pour emmener les enfants à l'école. Donc son projet a été financé en partie par les citoyens et la région qui les a suivis, séduite par le projet, donc à hauteur de 50 000 euros. Son idée était au départ d'acheter un véhicule tout construit aux Pays-Bas et finalement la passion de la mécanique a pris le dessus. Et donc il a imaginé un véhicule de type Rosalie où on peut emmener 8 personnes. Donc elle est constituée d'un châssis et d'un toit décapotable en alliage bois et d'un guidon et des montants en selle en aluminium. Donc son projet sera opérationnel pour la rentrée prochaine. Il a encore quelques réglages à faire, notamment sur la direction du guidon, les freins qui sont encore à perfectionner.
Ouais.
Et avant l'usage, il va passer une homologation auprès des services de l'État, notamment la DREAL.
C'est une très belle idée.
Voilà, super idée.
En décapotable en Bretagne, ce serait un peu compliqué, peut-être.
Mais c'est lui qui conduit le.
Eh oui, c'est lui
l'engin.
Qui... Alors, ouais, le premier...
La Rosalie, c'est plus
joli. La Rosalie. Je ne sais pas si c'était son nom ou le véhicule. Mais,
le premier véhicule, c'est lui qui va le conduire. Mais il a pour projet de doter la commune de 3 véhicules au total. Et il recherche des bénévoles qui aimeraient accompagner ses enfants à l'école et participer à la transition.
Ah c'est une super belle idée. Merci beaucoup, Carole. Belle nouvelle, effectivement. Comme quoi, quand on est citoyen, il vaut mieux faire ça que d'aller acheter des trucs en roulant, hein, entre nous. Parce que c'est ce qu'il voulait faire au départ. Finalement, il a construit lui-même. Très, très belle idée.
Ouais. Midi à l'Ouest sur Radioactive.
Chaud, froid, poncho ou parka, c'est la météo sur Active.
Météo de vacances ou pas? Oui, allez, un petit peu, il n'y aura pas de pluie, c'est déjà pas mal. Quelques petits nuages gris, des averses, non, il n'y aura pas d'averses, il y aura plutôt des éclaircies et des passages nuageux sur le département des Côtes d'Armor cet après-midi et plutôt des nuages blancs que gris. C'est déjà une nouvelle plutôt pas mauvaise. Il fera entre 10 et 12 degrés, 13 degrés cet après-midi sur le 22, ça c'est un peu léger, mais bon, c'est comme ça. 10 degrés, ça sera pour Pounévé-Moidec et sa région, 12 degrés à Guingamp, tout comme à Saint-Brieuc, Plaidel, 13 degrés quand même à Paimpol où tu as mal nagé, je le sais, Noélie. 12 degrés du côté de Lannion dans le Trégor, 11 degrés sur la côte du côté de Herky, Pléneuf-Val-André, 12 degrés. C'est aussi la température, 11 ou 12 degrés que vous aurez sur le sud du département. Et puisqu'on parlait du Trégor, on va y filer tout de suite dans ce midi à l'ouest avec Erwan Mingui, donc flûtiste, qui avec son trio sort un album, sorti au mois de mars, un album qui s'appelle Spi. Pas mal.
Spi, tu l'écris comment, Spi?
S-P-I, voilà. Et si vous écoutez bien, vous aurez le sens de ce terme. On s'écoute justement le titre Spi, et juste après, Erwan Mingui avec nous au téléphone.
Thank you.
c'est avec un voyageur que nous avons, un musicien voyageur que nous avons rendez-vous ce soir, puisqu'on va aller faire un tour du côté, on va pas aller bien loin d'ici, puisque Erwan Mingui est avec nous au téléphone, et puis je crois que t'es pas très très loin de Saint-Brieuc. Erwan, bienvenue sur Radioactive.
Bah bonjour, merci de m'accueillir.
Et du coup, je disais, oui, tu n'es pas très très loin de Saint-Brieuc, je crois que tu es du côté de Paimpol, c'est ça ?
Bah c'est ça, oui, je suis né à Paimpol et maintenant j'habite un petit peu plus vers Brest, sur l'Envelec.
Très bien.
En dessous de Lannion.
Avec un beau... Et puis l'Envelec, c'est un endroit où la musique, c'est plutôt majeur, parce qu'il y a un beau festival là-bas tous les ans de musique baroque.
Oui, c'est ça, festival de musique baroque, oui, c'est ça, oui.
Mais toi, c'est pas de la musique baroque que tu fais, c'est plutôt du jazz. Quoique la flûte dans la musique baroque, j'avoue que je n'y connais pas grand-chose, il y en a peut-être ?
Ah bah il y en a, oui. Bah justement, la flûte que je joue, c'est une espèce d'évolution de la flûte baroque, oui, c'est ça.
Ah d'accord, bah finalement, t'as pas choisi cet endroit par hasard, du coup.
Ben ouais, je sais pas si c'est l'endroit qui m'a choisi ou l'inverse, mais on s'y retrouve finalement.
Alors on va évoquer cet album Spi qui sort ces jours-ci, enfin qui est sorti il y a un petit mois maintenant plutôt, le 8 mars. Enfin non, le 8 mars c'était le A10 et il est sorti fin mars exactement, le 29 chez Clam Records. Tu t'es entouré de musiciens et de la région, et pas que de la région, mais en tout cas, c'est notamment Kevin Le Pennec au sistre et Hugo Lasserre à la contrebasse. C'est quoi le sistre, pour ceux qui connaissent pas?
Bah, le sistre, c'est vrai que c'est pas très, très connu. Il y en a un petit peu plus maintenant en Bretagne et en Irlande. Et, bah, ça ressemble beaucoup au bouzouki irlandais. Et donc, il y a juste deux cordes en plus, un doublon de cordes en plus, quoi. Le bouzouki irlandais, ça fait quatre fois deux cordes.
Ouais.
Et le sistre, c'est quasiment le même instrument avec cinq fois deux cordes.
Très très bien. Et c'est une musique, justement, cet instrument-là, il a une sonorité particulière. C'est vrai que il y a une essence, et tu le revendiques, je crois, une essence plutôt acoustique sur cet album.
Ouais, c'est ça, ouais. Et puis le fait de... Donc il y a le sistre et il y a aussi la guitare. Et le fait de travailler avec les deux qui sont proches quand même, parce que c'est des instruments à cordes pincées, mais qui ont quand même des différences. Le sistre, il va chercher un peu plus dans le... Je sais pas, dans le haut médium, en tout cas dans le médium, il y a quelque chose qui les différencie quand même bien. Et je trouvais ça intéressant justement de les marier tous les deux.
Ouais.
Et puis c'était pas non plus par hasard, puisque c'est deux musiciens avec lesquels je joue depuis des années séparément, que j'ai un duo avec l'un et un autre duo avec l'autre sur des répertoires différents.
Ouais.
Et puis là, c'était un petit peu l'envie, quoi, de les réunir et puis de rajouter une contrebasse pour aller chercher un peu plus bas dans le spectre. Et voilà, comme tu dis, ouais, d'avoir une formule très acoustique, quoi, au niveau des cordes et puis de la flûte, évidemment.
Et puis je disais voyage, c'est vrai que c'est ton premier album, hein, sous ton propre nom, si je ne m'abuse, en tout cas.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais en tout cas, tu as voyagé, en tout cas, au moins musicalement, avec pas mal de formations. Je veux bien que, pour les auditrices, auditeurs de Radioactive, tu nous donnes un petit peu, non pas tout ton CV, non pas tous les groupes avec lesquels tu collaborais, mais je sais que t'as quand même touché à pas mal de styles musicaux différents, pour le coup.
Oui, oui, oui. Puis bah, c'est vrai qu'à la base, moi, j'ai fait de la musique bretonne à la bombarde. Après, j'ai bifurqué vers la flûte. Et en bifurquant vers la flûte, bah, évidemment, je me suis mis à la musique irlandaise avant même de me mettre à la musique bretonne sur cet instrument-là. Donc, ça faisait déjà musique bretonne, irlandaise. Et puis après, cette flûte-là permettant de jouer un peu plus de chromatisme et tout ça que la bombarde, en tout cas celle que j'avais, je me suis intéressé un peu à certaines musiques de l'Est, mais sans être spécialiste, mais des musiques bulgares, roumaines, j'en ai écouté, j'ai eu une période où j'en écoutais pas mal.
Ouais.
Et puis, c'est vrai qu'on a accès à tellement de musique maintenant que c'est assez difficile de, bon, on voyage physiquement parce que on est allé en Irlande, en Écosse, en Italie, Espagne, dans pas mal de pays d'Europe, quoi, Belgique, donc, à chaque fois qu'on va là-bas, on rencontre des gens, on rencontre des cultures, on n'a pas traversé l'Atlantique encore avec avec ce groupe-là, mais bon, peut-être qu'un jour. C'est vrai que c'est ce qui me manque un peu, le fait d'être allé vraiment en chair et en os aux États-Unis.
Oui, parce que
ta musique,
elle n'est pas si loin que ça, finalement, aussi, de ce qu'on appelle l'Americana, c'est-à-dire cette musique populaire, hein, des musiciens qui est pratiquée en Amérique. Alors, peut-être que, on sait que Bob Dylan a beaucoup puisé là-dedans, Woody Guthrie, ou ce genre de musiciens-là. Ouais, c'est pas tout à fait par hasard que tu parles du continent nord-américain, pour le coup, là.
Ouais, voilà. Et puis on s'est inspiré aussi quand on joue sur scène. Bon là, sur l'album, on le voit pas forcément parce qu'il n'y a pas le visuel. Mais quand on joue sur scène, on joue autour d'un micro central, comme peuvent le faire les musiciens de bluegrass.
Ouais.
Et qui jouent justement avec cette configuration-là, quoi, qui s'approche, qui se recule du micro, et ça fait vivre d'autant plus la musique. Et puis ça crée un visuel assez sympa. Et puis je trouve que c'est assez fédérateur, même pour le groupe, quand on est vraiment collés serrés les uns aux autres. Et ça nous fait notre petite bulle, musicale, et c'est assez confortable en fait comme façon de faire. Et donc on a eu envie d'essayer ça, et puis on s'est rendu compte que ça nous plaisait bien, que ça marchait bien sur scène, et puis que c'était aussi ça crée une espèce de proximité aussi avec le public, même dans des petits lieux où on joue. Ça crée une bonne réactivité du public et une bonne intimité, je trouve. Alors le simple fait de changer de configuration, de jouer debout vraiment les uns près des autres autour d'un micro, c'est intéressant, quoi. Ça nous plaît bien, donc on continue là-dedans, mais effectivement.
Il y a quelque chose de presque des origines de l'amplification musicale avec cette idée-là de jouer tous les trois autour d'un micro comme ça.
Bah oui. Et puis en plus il y a la notion de simplicité entre guillemets, quoi. C'est puisque nous on aspire à une musique très acoustique, tout ça, c'est le fait que ce soit très dépouillé sur scène avec juste un micro, on n'a même pas de retour ni quoi que ce soit. Donc la scène est vraiment dépouillée. On joue vraiment en acoustique et c'est ça correspond bien, c'est comme si on était en répé en fait.
Et justement, tu parlais, Erwan, de coller serré. Est-ce que l'enregistrement de cet album, il s'est déroulé justement plutôt en coller serré, comme ça, en live? On sait qu'on on peut enregistrer soit en live, soit on remet du heureux, comme on dit, c'est-à-dire des pistes, etc. Il y a quand même une essence live sur cet album-là, je trouve.
Ouais, on a enregistré en live. Après, on n'était pas tous autour d'un micro central comme on est sur scène, parce que faut avoir les compétences pour faire une prise de son comme ça, faut jouer sur les placements, tout ça demande un peu de temps, faut avoir le lieu adapté, la pièce. Mais on était chacun séparé dans une pièce, on se voyait à travers des vitres.
Ouais.
Et donc on jouait ensemble, mais on était quand même séparés pour pouvoir mixer comme on peut faire ou comme on sait faire habituellement. Après, bon, ça c'est faisable sans doute aussi autour d'un micro central, en reprenant quand même la contrebasse, que le bas passe pas forcément bien dans ce genre de micro. En tout cas sur scène, ça marche bien, quoi, parce que c'est vrai que c'est complètement différent, à mon avis,
le fait d'enregistrer pour un
album, et puis la notion de live sur scène où il y a d'autres choses qui se passent. Et
on sent que c'est le lieu où tu aimes être, Erwan, la scène.
Ouais, c'est heureusement, parce que sinon on se ferait mal. Et puis c'est surtout qu'on y est bien quand on a les musiciens et puis les copains qui sont avec nous. Si j'étais tout seul, sans doute que je m'amuserais moins. Et puis j'ai pas d'objectif de faire des spectacles en solo ou quoi que ce soit. Il y en a qui le font même à la flûte, et puis c'est très bien, ça marche très bien, mais je pense que j'aurais du mal, moi, à partir tout seul, à être sur scène tout seul, et tout ça, c'est quand même intéressant et stimulant d'avoir les autres qui jouent et qui nous titillent un peu quand on a tendance à s'endormir.
Est-ce qu'à l'image de... Voilà, tu parles beaucoup de scène, effectivement, moi, cet album Spi, il faut aller l'écouter de près parce qu'il est beau et que la pochette, tiens, entre parenthèses, est magnifique, on va en parler après. Mais qui dit flûte, qui dit quand même la musique que vous pratiquez, même si elle a plein d'influences différentes, est-ce que tu te le donnes une marge d'improvisation quand même, justement, quand on est sur scène? Est-ce que la flûte appelle peut-être à l'improvisation?
Oui. Les structures des morceaux sont assez définies. Après, on a des plages alors où soit ça va être le sistre, la contrebasse, la guitare, ou chacun, on a dans le set complet d'une heure un quart de concert, on a chacun des moments où on improvise vraiment. Après, la structure est assez définie, et après en musique, moi je viens de la musique traditionnelle, donc c'est vrai que le terme improvisé il prend un peu un autre sens dans cette musique-là, puisque grosso modo, moi quand je joue un thème, si on le répète plusieurs fois, je vais pas le faire de la même façon, et la façon de varier n'est pas forcément définie à l'avance, quoi. On fait un petit peu selon l'ambiance du moment, selon la réactivité des gens, selon ce que font les musiciens, les copains à côté en termes d'énergie, tout ça.
Ouais.
Donc il y a une forme d'improvisation dans la manière de jouer les thèmes, quoi, puisque je vais jamais les jouer deux fois pareil sur scène. Il y a des Il y a des variantes des fois qui ressortent qu'on a déjà faites, qu'on a un peu en tête, et puis il y a forcément des choses nouvelles qui sont parfois liées aux contraintes. Il suffit qu'on ait un peu trop mangé avant de faire un concert, on a un peu moins de souffle en faisant de la flûte, et puis on prend les respirations ailleurs, et donc faut s'adapter. Enfin, ça peut être des choses assez pragmatiques comme ça. Mais
donc organisateur de concert, si vous invitez Erwan Mingui et Kevin Le Pennec et Uglacer sur scène, évitez la choucroute avant le concert, parce que sinon après il aura beaucoup moins de souffle, pauvre Erwan.
Après le concert.
Je le disais, la pochette est splendide, elle est prise de haut, on vous voit hein, dans une clairière comme ça, en plein automne. Parce que c'est les couleurs de l'automne, les arbres, ils sont magnifiques, elle est vraiment splendide. C'est un album d'automne, non ?
C'est pas un album d'automne, et bah là, c'est tout le travail de Nicolas Bockel qui a fait la pochette. Alors, ça, c'est des photos, les photos de l'intérieur de la pochette, on les avait prises, c'était pas par chez moi, c'était dans le sud de la Bretagne, je me rappelle même plus le nom du. C'était dans le coin de chez Erwan Béranguet, plutôt vers l'Orient, tout ça.
Ouais.
Et les couleurs, on les avait prises, alors je sais plus à quelle période, mais c'était encore vert. Donc ça a été automnisé par la technique moderne, donc par le Photoshop. Mais voilà, comme il sait très bien faire ça, on avait une photo plutôt dans les tons verts au début, puis on se disait que il nous a fait des essais comme ça, couleur d'automne, et on trouvait que c'était
chouette.
C'était mieux, ouais. C'était chouette.
Ça allait bien avec l'album, en tout cas. En tout cas, évidemment, ça donne envie. Je reviens quand même à cette histoire de micro et tout le monde autour du micro. Il y a quand même un côté école du fest-noz, école de musique traditionnelle qui apparaît à travers ça. Ça reste, si toi qui aimes quand même un musicien, un voyageur, comme je le disais, reconnu un minimum maintenant, tu donnais un conseil à un jeune, va dans les musiques traditionnelles, apprends ces musiques-là.
Par rapport au micro et à l'enregistrement.
Oui, tout ça, en fait, ce qu'on disait, ce fait d'être tous les trois autour d'un micro, etc., de ce côté très simple, en fait.
Ouais, bah c'est vrai qu'en plus, moi j'ai été, je ne le sais plus beaucoup, mais j'ai été pendant pas mal d'années sonneur de coupe, donc au Bignou, et puis avec Daniel Leféon qui était à la Bombarde.
Ouais.
Et donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est des instruments tellement puissants qu'on est, vraiment en acoustique, et même en fest-noz, on joue au milieu des gens dans la salle, on ne monte pas sur scène derrière un micro, donc il y a peut-être ce côté-là aussi. Que j'aime bien d'être très acoustique, et puis même quand ça devient sonorisé comme c'est le cas là, d'essayer de garder ça. Moi j'ai tendance à me dire qu'une musique, si elle sonne acoustiquement et que les timbres sont équilibrés, une fois que c'est amplifié, je sais pas qu'il y a plus grand chose à faire, mais normalement ça doit sonner correctement, même avec une amplification assez simple comme ça, quoi, avec autour d'un micro central. Et ça m'arrive des fois de faire des pistages, des trucs comme ça. Et un conseil que je donne aux stagiaires, c'est pour faire le lien avec l'enregistrement, c'est de s'enregistrer, de s'écouter, de jouer, de s'enregistrer. Alors évidemment, c'est quel que soit le niveau qu'on a, c'est toujours décevant parce qu'on a toujours la sensation de faire mieux que ce qu'on fait réellement. On a la sensation, on croit produire quelque chose et quand on se réécoute, on se dit ah ouais ça pourrait être mieux, ça c'est pas très précis. Mais je me dis que finalement c'est le meilleur professeur, quoi. On est souvent plus dur avec soi-même qu'avec les autres, donc quand on se réentend, on est bon. Évidemment, ça plombe un peu le moral, mais je pense que c'est une bonne école, ouais, de s'enregistrer, même pas forcément avec des bons micros, avec un téléphone, avec quelque chose, mais pour entendre tout ce qui est notion de phrasé, d'articulation, de précision, et voir si on va vers ce vers quoi on veut tendre, quoi, au niveau de quand on se réécoute.
Donc réécoutez-vous, conseil aux jeunes musiciens de Erwan Mingui, conseil qu'il faut suivre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Erwan, pour célébrer ce SPI. Voilà, c'est un peu le nom d'une voile, mais je ne sais pas si c'est ce sens-là que tu as voulu mettre derrière ce terme.
C'est pas ce sens-là, mais ça aurait pu. C'est le SPI en breton, c'est l'espoir.
Ah.
Du coup, je m'étais dit que c'était pas mal comme mot, parce que c'est assez simple à prononcer. Potentiellement, c'est pas trop difficile à prononcer dans une autre langue si jamais l'album voyage un peu.
Ce qu'on lui souhaite.
Et puis ça nous rattache à une notion qui est assez importante.
Oui, quand même, surtout.
Il paraît que ça fait vivre.
Surtout ces temps-ci, on en a vraiment besoin de spi, tiens, pour le dire en breton. Si on veut suivre.
Avec les joints hydrauliques, les joints spi.
Pour terminer, si on veut aller te voir en concert, etc., le mieux c'est quoi? C'est Instagram, c'est Facebook, c'est quoi?
Eh ben, il y a une page complète du quartet sur la page de Clam Records, qui est la boîte de production qui dans laquelle on est, et puis qui a produit l'album et tout ça. Donc ça s'écrit KLAM et Records comme des enregistrements au pluriel.
Oui.
Et donc ils ont tout un catalogue où il y a plusieurs groupes, dont le quartet. Et sur la page du quartet, les dates sont mises à jour régulièrement. Donc là, normalement, en allant là, on est bon.
Ah bah c'est pas mal. À nouveau merci Erwan, et puis longue vie à ce disque, à ce spi, et puis à vous qui nous écoutez, allez voir ça sur scène, vous allez ressortir très surpris et sûrement très enchanté aussi. Ça c'est ce qu'on vous souhaite. À bientôt.
À bientôt, merci à vous.
Danser derrière le poste à l'écoute de cette très très belle musique très fraîche signée Erwan Mingui. Je vous rappelle, l'album c'est Spi. J'espère que vous avez pu apprécier cette petite plage musicale de ce vendredi midi. Sur midi à l'ouest dans un Radioactive ou l'inverse, il est midi et demi. Je vous rappelle que tout à l'heure en fin d'émission on vous offrira une place. Non, j'avais dit que c'était à midi et demi. On va l'offrir maintenant alors. Qu'est-ce que t'en penses, Noélie?
Bah comme tu veux. Tu sais, tu peux casser tes propres codes et genre l'offrir en fin d'émission.
On peut l'offrir en fin d'émission. Alors, on l'offrira peut-être en fin d'émission.
Sur le gâteau.
C'est une place pour la Yigros, hein, je vous le rappelle. Donc, restez pas très très loin de votre téléphone. Noélie est de retour parmi nous, comme vous l'avez entendu. Et puis, Carole est aussi avec nous ce midi. Carole qui vient de passer quelques jours en découverte, voilà, ici même. Ouais, ça va, tout va bien, Carole.
Oh, super. Ravie d'être avec vous.
C'est parfait. La porte est évidemment ouverte. Et puis, si vous ne le savez pas, oui, nous accueillons aussi des personnes ici en découverte, en stage ou autre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, mais pas de jour. Ah bon, s'il vous plaît. Quoique, si, certains, ça fait, certaines le font. En tout cas, on est ravis d'être avec vous pour parler cinéma ce midi, parce que c'est ça, et c'est pas Takit qui va s'en charger, c'est Noélie ce midi, puisque Takit a été appelé à d'autres activités. Avant d'évoquer tout ça, cet après-midi, vous avez rendez-vous avec un film, et si vous voulez, d'ailleurs, il nous reste quelques places, et c'est vraiment tout à fait vrai, un film qui s'appelle Gladiator, que Noélie a beaucoup aimé quand elle était plus... Non, je sais pas, tu l'as vu?
Non.
Gladiator, mais pourquoi Gladiator? C'est parce que c'est Sylvain Després qui a réalisé le storyboard, si je ne m'abuse, de ce film Gladiator, justement. Il est projeté en version originale cet après-midi au Club 6. On a quelques places à vous donner avant 13h. Faut appeler avant 13h45, parce que 13h45, c'est le début de la séance. Mais si vous voulez en avoir, n'hésitez pas à nous contacter au 02 96 52 26 03. Si vous voulez aller au cinéma de la part de Radioactive, 02 96 52 26 03. Vous n'hésitez pas à appeler pendant ce midi à l'ouest. Donc, je le disais, Taquit n'est pas avec nous. L'exposition de Sylvain Després, par contre, elle est toujours en cours du côté du Grand Pré, non pas du Grand Pré, mais de la
médiathèque de Langueux.
La médiathèque de Langueux, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment un véritable événement. Et puis, le storyboard, si vous ne savez pas, c'est un peu comme la bande dessinée qui permet la réalisation du film. Mais Noélie, nous connaissons ta profonde passion pour le cinéma. On sait que tu aimes beaucoup ça, le cinéma, et donc tu vas nous présenter les films qui sont sortis cette semaine sur les toiles obscures, dans les salles obscures et sur les toiles magiques de... Bref, au cinéma. On t'écoute, c'est parti.
C'est parti. Je vais essayer de faire aussi bien que Taquit. Enfin, je vais pas essayer de rivaliser surtout. Eh bien, écoute, on va commencer par aller du côté de la Corse avec le nouveau film de Stéphane Desmoustiers. Je sais pas si vous connaissez Stéphane Desmoustiers. Moi, je le connaissais plutôt comme le frère d'Anaïs Desmoustiers. Mais il a fait des très bons films, tels que La fille au bracelet. C'était un espèce de film de procès assez intéressant, bien immersif. Et cette fois-ci, il revient avec Borgo. Et Borgo, c'est le nom d'une prison en Corse. Et Borgo, c'est donc un film policier slash un peu thriller qui est tiré d'événements réels et en fait qui est inspiré du coup d'une histoire vraie, d'une histoire de deux mafieux en Corse, pas eu parce qu'il y a pas mal de mafieux en Corse.
Oh.
Mais quoi, non, pas possible. Et en fait, Borgo, ça met en scène Mélissa, 32 ans, qui est une surveillante pénitentiaire expérimentée et elle va s'installer en Corse avec ses deux jeunes enfants et son mari. Où elle a été affectée et en fait elle va finir par tisser des liens avec des malfrats et peut-être elle aussi trempée dans des affaires assez louches. Voilà, donc c'est un film aussi qui, je tiens à préciser, qui a déjà fait un peu polémique parce qu'en fait il s'agit que, pour votre petite information, déjà la pénitentiaire qui est interprétée par, d'ailleurs, par Afsia,
la gardienne,
Afsia Herzi. Merci, je perdais jamais mes mots. Tu vois qui c'est, Afsia Herzi?
Oui, je crois.
Ouais, elle a joué dans Le Ravissement de Iris Kaltenbach récemment, ouais. Où elle jouait aussi un personnage assez ambigu qui s'empêtre un peu dans ses mensonges et elle refait un peu ça. Enfin bon, bref, le film a déjà fait un petit peu parler de lui, notamment en Corse parce que cette pénitentiaire, elle est actuellement en procès. Donc,
c'est vraiment tiré d'une histoire.
C'est hyper actuel. Après, c'est vrai que le réalisateur s'est assez défendu de faire vraiment une retranscription du réel, mais pourtant il va revenir quand même sur l'enquête criminelle et surtout aussi le contexte qui a poussé cette jeune femme à tremper dans cet engrenage de mafieux,
voilà.
Et elle est actrice, elle devient actrice aussi à un moment dans le film, donc voilà, ça se passe beaucoup, il se passe beaucoup beaucoup de choses. Après, vous attendez pas à voir les beaux paysages de la Corse parce que ça se passe principalement au sein de la prison de Borgo. Voilà, super film policier de Stéphane Desmoustiers à retrouver au Club 6. C'est vrai que j'ai même pas dit que je commençais par les films du Club 6 parce que je déroge pas à la tradition. Il dure à peu près 1h58 et on retrouve Louis Mémy, que je connais pas trop non plus, et Florence Loire-Écaille qui me dit aussi quelque chose.
En tout cas, ça a l'air un film ancré dans le réel.
Et je connais pas trop son cinéma, Stéphane Desmoustiers, mais
je crois qu'il a fait des films.
Il a fait des films.
Non, mais qui sont plutôt pas mal. C'est ce que je voulais dire, bien sûr.
Mais oui, voilà. On continue avec un documentaire. C'est le dernier volet du triptyque réalisé par Nicolas Philibert, qu'on ne présente plus, qui est ce super documentariste. Il mérite, qui clôture donc son exploration de la psychiatrie qu'il avait initiée avec ce film documentaire sur l'Adamant.
Ça c'est fabuleux.
Je pense que ça vaut peut-être le coup de regarder les trois documentaires à la suite parce qu'ils sont pas, très longs. Enfin, en tout cas, le dernier, c'est La machine à écrire, autre tracas, qui dure 1h12. Voilà, donc il termine son exploration du centre psychiatrique. Et cette fois-ci, il est tourné au domicile domicile de patients du pôle psychiatrique Paris-Centre. Voilà. Et donc, le cinéaste, il va accompagner la vie des soignants qui deviennent un peu bricoleurs au domicile, justement, de patients qui vont être démunis par rapport à un problème domestique, un appareil en panne, etc. Donc, vraiment, ça va être, je pense, une plongée dans leur quotidien. C'est une fin de triptyque qui est assez joyeuse apparemment, enfin pas joyeuse mais c'est pas c'est pas une note très grave.
Oui, et puis Libère, c'est ça ce qui est bien aussi justement, c'est qu'il tombe pas dans une forme de pathos.
Oui, voilà, c'est ça. Il arrive quand même à montrer avant tout l'humanité de ces personnes-là. Donc dans le triptyque, il y avait Sur la Daman qui est en fait un centre de jour ouvert aux Parisiens qui sont atteints de troubles psychiques. C'était le premier documentaire. Et il y avait Averroès et Rosa Parks qui est vraiment sorti très très récemment. Et là, Averroès et Rosa Parks, c'était plus à l'hôpital de l'Esquirol, au sein justement de deux unités intra-hospitalières, toujours du pôle Paris-Centre. Donc cette fois-ci, c'est plus sur le domicile de personnes qui vont être atteintes de problèmes psychiques et... On dit pas psychiatrique. Voilà.
En tout cas, c'est vrai que c'est aussi. Faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent peut-être près de chez vous, qui nous écoutez. Il y a plein d'appartements, parce que c'est aussi une volonté des soignants, une volonté de mettre les gens, d'habiter, d'avoir une vie dans la cité, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal qu'il aille planter ses caméras dans ses domiciles. Super. Ouais. C'est super aussi que le Club 6 les projette, ces films.
Le Club 6 a projeté tous les films, donc vraiment, ils ont vraiment suivi la progression de Nicolas Philibert. Et c'est une expérience, je pense, de voir des documentaires au cinéma, c'est toujours très intéressant. Dernier film que j'ai décidé de présenter au Club 6 parce que j'ai pas eu le temps de tous les présenter. Il faut révéler les coulisses de la radio. C'est La Roy ou La Roi de Shane Atkinson, qu'on connaît pas trop. Moi, il me disait rien, mais en fait, c'est parce que c'est son premier long métrage. Et La Roy, c'est une espèce de comédie noire où on va suivre la métamorphose d'un loser en serial killer. Donc voilà, c'est un film. Alors, ce film-là, c'est un peu présenté comme. Une grosse vachement inspirée des films des frères Coen, voilà, que j'ai pas forcément vu personnellement, mais qui sont quand même très importants. Et en fait, ce cinéaste, il a été un peu présenté justement comme le disciple digne des frères Coen, donc je pense qu'ils ont
ça va.
Impliqués. Ouais, rien que ça, vraiment un titre hyper humble, mais en tout cas, ça a l'air très drôle parce que c'est on suit donc Ray, qui est interprété par John Magaro, que vous avez peut-être vu passer dans le petit film Live de Céline Song, qui est un film très beau et très contemplatif, qui aussi, maintenant, décroche son premier rôle dans La Roy. Donc Ray est un trentenaire, un loser, comme je le disais tout à l'heure, vraiment la caricature du loser. Sa femme, elle le trompe, son frère, il le rabaisse constamment, ses employés lui marchent dessus.
C'est pour ça qu'il devient un serial killer.
Sa vie est relativement tragique, et c'est même pas pour ça qu'il devient un serial killer. En fait, c'est juste qu'il tente de mettre fin à ses jours sur le parking d'un motel. C'est pas vraiment un spoiler, puisque je pense que ça arrive assez tôt dans le film.
Voilà, c'est ça.
Et en fait, un inconnu va faire irruption dans sa voiture, pensant que Ray est un serial killer qu'il a engagé. Et en fait, Ray, il va être complètement décontenancé par ce quiproquo. Il va accepter cette mission de serial killer. Et en fait, à travers cette mission, il va quand même être persuadé qu'il va enfin trouver une légitimité, que les personnes vont respecter, tu vois.
Ça a l'air pas mal.
Et en fait, il se passe, je pense qu'il se passe qu'un truc.
Oui, d'accord.
C'est pareil, je l'ai pas vu, donc j'ai pas inventé la fin. Il se passe plein de trucs. Et le plan, apparemment, de ce meurtre est relativement simple. Et il se retrouve quand même pris dans un engrenage dont il va devoir se sortir. Donc voilà,
ça donne
hyper envie. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce que j'ai vu, il mélange vraiment les genres, c'est à dire qu'on peut vraiment bien rigoler, et on peut avoir une frousse assez terrible. Voilà, donc ça, c'est La Roy de Shane Atkinson. Ça dure 1h52. Au casting, je vais détruire leur nom. Nous avons John Magaro, Steve Zahn, Galadriel Steinman, Matthew Del Negro et Bob Clendenin. Peut-être des gens qui sont connus aux États-Unis, mais en tout cas, ça a l'air d'être une belle découverte.
Cinéma un peu indé, pour le coup, qui nous plaît bien.
Cinéma indépendant à la Coen, apparemment.
C'est pas mal.
c'est vrai que vu qu'on a un petit peu le temps, je peux mentionner là, un film que j'ai pas forcément catalogué au départ, qui se passe aussi au Club 6, et ça s'appelle Amal, un esprit libre, et c'est donc un film de Jawad Ralib. T'en as entendu parler du film?
Carole,
non, Carole, je te vois hocher. J'ai retenu, mais j'ai pas...
T'as retenu, t'as mis dans ta petite liste.
Ouais, dans ma liste à voir.
Et en fait, on va suivre une professeure de littérature dans une école bruxelloise qui est confrontée à la levée de boucliers de certains élèves, parents d'élèves, mais aussi collègues professeurs.
Ah si, c'est bon, et ça y est, moi aussi j'en ai entendu parler, effectivement. Ouais, ouais. Et c'est un bien, parce que c'est un sujet brûlant. Hein,
ouais, c'est un sujet brûlant d'actualité, et j'étais en train de me dire qu'il y avait quand même énormément de films qui sont sortis sur les profs récemment.
Mais c'est une histoire entre une jeune femme qui, enfin, jeune fille parce que ce
en fait c'est
une qui est plutôt intégriste et puis pas l'autre, quoi.
Et puis en fait le point de départ, c'est des vers satiriques du 8e siècle qui vont vanter la liberté sexuelle de son auteur, qui vont donc créer une polémique au 21e siècle, donc un sujet plus que jamais d'actualité, comme tu le disais justement. Et c'est donc Jawad Ralib qui nous a sorti ce film, qui sort au Club 6 et peut-être dans votre cinéma.
C'est une femme, c'est une femme, je crois. C'est une réalisatrice, me semble-t-il.
Je ne connais pas du tout la réalisatrice.
Je crois que c'est ça.
Que oui. Voilà.
En tout cas, c'est de la subtilité, ce qui est plutôt pas mal. Et bravo, là encore, de programmer Amal, puisque c'est le nom de ce film. Rien à voir, on se passe quelques notes de Bonnie Banane, que vous pourrez écouter ce soir entre 17 et 18 heures dans Dig Dig Diggers avec Brimheim. Et puis c'est bien parce que vous allez pouvoir entendre les voix radioactiviennes, puisque c'est cette radio qui a réalisé l'interview de Brimheim cette semaine, l'artiste des îles Féroé, il faut le savoir. Un peu danoise aussi, mais enfin c'est pareil. Hein. Enfin c'est pareil. Les îles, c'est un peu comme la Bretagne avec la France, si vous voulez. Ouais. C'est une espèce d'île à côté. On écoute Bonnie Banane sans transition. Donc on trouve Brimheim et Bonnie Banane seront dans Diggers entre 17 et 18 heures tout à l'heure. Grab my hand. Wanted signs. Bonnie Banane sur Radioactive avec le titre Red Flags. T'as vu, je l'ai bien prononcé, hein, Red Flags, ça veut dire drapeau rouge.
Drapeau rouge, ouais.
Voilà, au pluriel. C'est pas de drapeau rouge, c'est bien de cinéma qu'on parle ce midi avec toi, Noélie, puisque notre ami Takit est off ce vendredi, mais on vient d'évoquer l'actualité du Club 6 et traditionnellement on va au ciné l'an après, c'est ce que tu vas nous proposer tout de suite.
C'est parti et on continue avec un... Oh, j'aime bien cette musique. Justement, je trouve que c'est parfaitement dans le thème parce qu'on va parler d'un gros blockbuster réalisé par Alex Garland qui a notamment pondu Ex Machina. C'est comme ça qu'on le prononce, ouais. Ex Machina ou Machina?
Machina.
Et Men qui continue dans sa lancée de blockbuster et cette fois-ci, il s'agit de Civil War qui est un film de guerre, horreur qui est un film un peu aussi d'anticipation mais ce qui est assez original parce qu'il y a un aspect très futuristique dans le film, c'est qu'il n'y a pas du tout de science-fiction. Voilà, donc c'est quand même relativement ancré dans une certaine réalité. Et on se retrouve donc avec ce blockbuster un peu politique d'anticipation qu'on va pouvoir peut-être mettre en corrélation avec le climat américain actuel. Enfin bon.
Civil War, hein, je veux dire ce que j'avais dit.
Civil War, hein. Voilà, c'est ça exactement. Et dans ce contexte de Civil War, c'est une guerre civile qui ravage donc les États-Unis. On ne sait pas vraiment comment elle a commencé ni quand elle a commencé, mais. En gros, la Californie et le Texas, ils ont fait sécession et ils ont formé donc une armée de l'Ouest qui marche sur Washington et notamment pour un peu renverser la présidence puisque on est face à un président qui est très très autoritaire, qui est joué par Nick Offerman, qui en fait fait bombarder ses citoyens et exécute les journalistes qui sont pas en accord.
Il n'est pas un peu blanc et orange dans le film.
On peut peut-être se penser à une figure, en vrai on rigole mais c'est très assez criant de vérité quoi. Et on retrouve donc deux reporters, Lee qui est joué par Kirsten Dunst qui est apparemment est vraiment magistrale,
enfin, mais comme d'habitude
j'ai envie de dire c'est pas étonnant, Kirsten Dunst pardon, notre Marie-Antoinette à toutes et donc Joël qui est joué par Wagner Moura qui vont donc à deux mettre le cap pour la capitale parce qu'en fait ce sont deux journalistes et ils vont essayer de décrocher une interview du président avant la chute justement du gouvernement et peut-être aussi pourquoi pas photographier sa mort. Donc voilà, ils attendent vraiment. Donc on est vraiment sous tension.
Bon, ça a l'air pas mal. Hein.
On est sous tension apparemment pendant vraiment tout le film. C'est assez glaçant aussi. Et voilà. Et il n'est pas si politique que ça. C'est-à-dire qu'il adopte un point de vue qui est assez neutre. On pourrait s'attendre à une véritable critique hyper acerbe de tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec Donald Trump. Voilà. Mais en fait, on ne peut pas s'empêcher de faire une corrélation avec les deux. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment une expérience assez magistrale, même visuellement et au niveau de l'acting et des effets spéciaux, rien qu'à voir les affiches. D'ailleurs, ça avait créé un peu de controverse parce qu'ils ont fait les affiches avec de l'intelligence artificielle, ce qui était même pas nécessaire.
Non, ça c'est vrai.
Mais ouais, c'est vraiment... Et un autre point assez original du film que je trouvais assez intéressant pour le mentionner, c'est que c'est produit par le studio A24. Et si vous connaissez un peu le studio A24, c'est plus un studio américain qui est vraiment spécialisé dans le cinéma indépendant. Par exemple, Uncut James, Midsommar, que t'as dû voir récemment. Lady Bird, Everything Everywhere, All at Once, tu vois. Donc c'est vraiment des films qui sont beaucoup plus indépendants, mais enfin.
Oui, donc c'est blockbuster, mais blockbuster. Voilà.
Mais c'est un blockbuster, ouais. Mais enfin, je trouve que le fait
c'est
que ce
Marvel,
soit produit
quoi.
Par Studio A24, c'est quand même un gage de qualité. Donc voilà, Civil War de Alex Garland, et je termine très rapidement avec
un. 3 minutes. En 2 minutes même.
Ça y est, j'ai la pression. Avec Monkey Man de Dev Patel, parce que c'est vrai que Dev Patel, on le connaît quand même relativement bien pour notamment le film Slumdog Millionaire, et en fait, il s'est essayé. À faire un film qui ressemble un peu à John Wick et ça s'appelle Monkey Man qui est en fait un boxeur clandestin raté qui va intégrer la pègre dans l'espoir de venger sa famille. Donc voilà, ça marque un peu les premiers pas du réalisateur, ça a l'air assez fantastique aussi et les critiques disaient que c'était pas vraiment réussi mais ça peut valoir le détour, apparemment ça a l'air très très original, du moins visuellement mais bon, voilà.
La critique est critique de toute façon.
Voilà, c'est ça, il fait ses premiers pas en tant que réalisateur, donc c'est chouette aussi, voilà.
Vous vous privez pas d'aller au cinéma en plus le temps s'y prête ces temps-ci.
Exactement, oui.
Midi à l'Ouest sur Radioactive.
Allez, avant de retrouver l'anniversaire du jour et de vous offrir une place pour la Yégrosse, la dernière qui nous reste au 02 96 52 26 03, juste vous donner le programme de Générique Rock, c'est spécial Camp avec Camp. simple groupe Quimp et puis Wizard Eco Plane, Mess, Wine Lips et encore Cannes si vous êtes branché sur le rock, krautrock, voilà, ça sera pour vous l'émission de ce midi, de ce samedi soir, c'est ce que j'ai oublié de dire, samedi midi plutôt, et de ce soir, voilà, on y arrive. Les grandes oreilles, c'est dimanche, ce soir vous avez rendez-vous avec l'Electro, Phase B pendant toute la soirée, l'émission aussi de Gepetto pour faire du gabber et puis la grosse techno qui boum boum, voilà, c'est le programme de ce soir sur le 101.9. Et puis plein de rediffusions tout au long de ce week-end, bien entendu, comme chaque week-end. Allez, il est midi 53 minutes et 50 secondes. Qui célébrons-nous aujourd'hui?
Bah, alors attends, petite pause juste avant de faire l'anniversaire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du final de Splatch. Final de Splatch, c'est ce week-end.
Oui, c'est important.
Et surtout aussi d'une manifestation antifasciste qui a lieu le 21 avril, qui est organisée par du coup le Front commun antifasciste. C'est un appel de toute la région à se réunir du côté du parc des promenades. Je pense que c'est
très très bien. Ça, c'est ce week-end aussi?
Ouais, c'est ce week-end. C'est le 21 avril et toutes les informations sur internet.
Une date pas prise tout à fait par hasard.
Voilà, exactement. Enfin bon, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire d'une réalisatrice qui nous a pondu un merveilleux film sur la justice restaurative, Je verrai toujours vos visages. Elle est aussi la fille de Miu Miu et de Julien Clerc, ça je savais pas. Et elle a fait un superbe film, Pupille aussi, où pour une fois, Gilles Lelouch est... Enfin, je trouve agréable.
Voilà.
Voilà, et plein d'autres films. Mais en vrai, je l'aime beaucoup, cette réalisatrice. Est-ce que vous avez trouvé?
C'est, oui, mais je vois, mais j'ai...
C'est Jeanne Herry.
Jeanne Herry, merci.
Voilà, et c'était aussi l'anniversaire de... Mince. Comment t'avais dit, Carole?
Evelyne Delia.
Voilà, Evelyne Delia.
Un autre genre.
Ça me fait plus mal au cœur de dire ça.
Herry, c'est le nom de Miu Miu. Elle s'appelle Sylvette Herry de son vrai nom.
Bah oui, parce que c'est sa fille. Exactement. Ah oui, donc la prime.
Ah, voilà. Elle s'appelle pas Claire.
Oui, voilà, exactement.
Noélie, on te retrouve lundi?
Bah lundi, bisous.
Carole, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis
merci.
Évidemment, tu viendras nous voir quand tu veux. Et là,
avec
la
plaisir.
Suite. La suite, c'est le Flash Impro. Vous avez 5 minutes pour nous appeler au 02 96 52 26 03 pour gagner votre place pour aller voir La Yégrosse. C'est maintenant.